Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti ». Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Au tout début du coronavirus, dans un supermarché de Châlons, il y a un homme, en voyant passer un prêtre, qui a crié dans le supermarché « Et là, votre Dieu, il fait quoi ?» Cette question qui a été posée publiquement, c'est une question qui peut être dans le cœur du croyant. Qu'est-ce que fait Dieu ? La foi d'Israël, la foi que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, elle est bâtie, elle est construite, elle vient de l'agir de Dieu. La foi d'Israël n'est pas une réponse intellectuelle au problème du mal. La foi d'Israël, c'est que Dieu a agi. Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Dieu a ouvert la mer devant nous. Dieu nous a donné du pain au désert. Dieu nous a donné de l'eau au désert. Dieu a agi. Il a donné des prophètes. Il a donné sa parole. Il a fait sortir Abraham. Dieu a fait des choses. Il a créé le ciel et la terre. Mais il y a aussi tous les moments où Dieu n'agit pas. Et des moments qui sont d'autant plus douloureux que précisément Dieu a agi. Pourquoi avons-nous prié pour cette personne et elle a été guérie, et nous prions pour une autre et la guérison ne vient pas? Pourquoi est-ce que nous prions pour la conversion de quelqu'un et cette personne se convertit, et pourquoi nous prions pour une autre et celle-ci ne se convertit pas? Qu'est-ce que fait Dieu? C'est ce que dit Job dans la première lecture que nous avons lue. Je n'ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Et encore, ce n'est pas l'un des passages les plus durs de Job. Si on avance de 2 chapitres, voilà ce que dit Job. Pourquoi donc m'as-tu fait sortir du sein maternel? J'aurais expiré, nul œil ne m'aurait vu. Je serais comme n'ayant pas été. On m'aurait porté du ventre à la tombe. Il y a le livre de Job, mais il y a aussi le livre de Jérémie. Il y a aussi le livre des psaumes. Voilà ce que dit le psalmiste dans le psaume 72. Les païens ont dit, allons, détruisons tout. Ils ont brûlé dans le pays les lieux d'assemblée sainte. Nos signes, nul ne les voit. Il n'y a plus de prophètes. Et pour combien de temps? Nul d'entre nous ne le sait. Dieu, combien de temps blasphémera l'adversaire? L'ennemi en finira-t-il de mépriser ton nom? Pourquoi retenir ta main, cacher ta face? Un tout petit peu plus loin, le psaume 73, qui parle du juste qui voit les impies qui réussissent. Un rien et je perds des pieds, un peu plus et je faisais un faux pas, car j'étais jaloux des superbes, je voyais le succès des impies. Jusqu'à leur mort, ils ne manquent de rien. Ils jouissent d'une santé parfaite. Ils échappent aux souffrances des hommes, aux coups qui frappent les mortels. Ainsi l'orgueil et leur collier, la violence, l'habit qui les couvre, leurs yeux qui brillent de bien-être, trahissent les envies de leur cœur. Ils ricanent, ils prônent le mal. De très haut, ils prônent la force. Leur bouche accapare le ciel et leur langue parcourt la terre. Cette plainte a 3000 ans. On parle de temps en temps de la mort de Dieu dans notre civilisation. Mais cette absence de Dieu, ce n'est pas une question du XXe siècle. Hein. Que fait Dieu? Pourquoi a-t-il agi là? Pourquoi n'agit-il pas maintenant? L'Évangile nous place à Capharnaüm, dans une maison banale. Jésus rentre avec 4 disciples, ce sont les 4 premiers disciples, Pierre, André, Jacques, Jean. On parle d'une malade. Et Jésus, le plus naturellement du monde, l'a guérit en un instant. On ne sait pas exactement qui d'autre était dans cette maison, mais ce qui est sûr, c'est que la nouvelle se répand tout autour. Parce que l'Évangile nous dit, juste après, la ville entière se pressait à la porte. Bien sûr que la ville entière se presse à la porte. Ça y est, Dieu est présent, Dieu agit. Il y a eu un miracle. Tout le monde accourt. Bien sûr que dans chaque maison, il y a un malade. Bien sûr qu'il y a des possédés, c'est-à-dire des gens qui sont sous l'emprise du mal. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont besoin de Dieu. La ville entière vient demander le secours. Et Jésus guérit. Imaginons un instant que Jésus soit resté à Capharnaüm. Qu'est-ce qui se serait passé? Si tout le monde est guéri à Capharnaüm, la nouvelle se serait répandue dans toute la Terre Sainte. Toute la Terre Sainte serait allée dans cette maison de Capharnaüm. Voyez les kilomètres qu'on est capable de faire pour aller à Lourdes, alors que finalement, dans l'absolu, il n'y a pas tant de miracles que ça. Les Juifs étaient habitués à aller à Jérusalem pour prier au Temple. Ils auraient très bien pu faire des longues routes pour aller à Capharnaüm. Jésus aurait pu rester à Capharnaüm, dans cette maison, et toute la Terre Sainte serait venue à lui. Les pauvres et les riches, parce que les riches aussi, ils ont besoin de miracles. Eux aussi ils tombent malades. Et après la Terre Sainte, l'Empire serait venu à Capharnaüm. Imaginez, il y a quelqu'un qui soigne à coup sûr. L'Empereur serait venu à Capharnaüm. Il aurait demandé. à Jésus de venir soigner son neveu, sa nièce. Lui, tout le monde a besoin de miracles. Et ce qui est étonnant, c'est que alors que toute la ville le cherche le lendemain matin, Jésus dit à Pierre, « Allons ailleurs. Allons ailleurs. » C'est-à-dire, Jésus choisit une autre voie. Jésus choisit un autre chemin. Allons ailleurs. Pour comprendre ce chemin que prend Jésus, il n'y a qu'une seule solution. Il faut regarder où mène ce chemin. Ce chemin mène à la croix. La croix nous dit que Jésus veut plus qu'une simple guérison corporelle, qu'il veut plus même qu'un exorcisme. La croix, ce que nous célébrons à Pâques, c'est la victoire sur la mort, c'est la victoire sur l'emprise du mal. Ce n'est pas nous qui rejoignons Jésus à Capharnaüm. C'est la croix qui vient rejoindre tout homme. Jésus, sur la croix, change le sens de la souffrance humaine. Jésus, sur la croix, permet à chacun, à travers ses croix personnelles, d'arriver à la résurrection. La tentation de Capharnaüm, ça serait la tentation d'une borne d'eau, un endroit où on peut venir en cas de problème, mais qui finalement ne change pas réellement la vie. La croix vient nous rejoindre de façon beaucoup plus profonde et elle nous demande une conversion. Jésus veut plus et c'est pour ça qu'il part ailleurs. Il veut nous emmener sur un autre chemin. Un chemin qui passe par la croix et un chemin qui mène à la résurrection. Cette plainte qu'on trouve dans l'Ancien Testament, de cet abandon, Jésus va l'assumer. En disant sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est descendu là-dedans. Jésus sait de quoi il s'agit. Ses souffrances, nos souffrances, ne sont pas extérieures à ses souffrances. Lorsque nous nous sentons abandonnés, le Christ sait de quoi il s'agit. Lorsque nous souffrons, le Christ sait de quoi il s'agit. Il connaît nos souffrances. Et il peut nous rejoindre dans nos souffrances. Ne rêvons pas d'une vie sans croix. Une vie sans croix, ce serait une vie sans résurrection. C'est pour ça que le Christ nous dit, « Celui qui veut marcher derrière moi, qu'il prenne sa croix. » Il n'y a pas de salut sans croix. Mais en revanche, il faut porter nos croix avec le Christ. Il faut vivre chacune de nos croix avec le Christ. Il faut vivre avec lui. Pour finir, simplement une chose sur ce fait de vivre les croix avec le Christ. Ayez recours au sacrement. Bien sûr, la confession, la communion. Ayez recours aussi au sacrement des malades. Lorsque la foi est menacée, lorsque la vie est menacée, demandez le sacrement des malades. Par rapport à l'extrême onction, elle existe toujours. Il y a une espèce de bruit qui court qu'il n'y a plus d'extrême onction, que c'est le sacrement des malades. Non. Il y a deux rituels pour le même sacrement, un rituel pour avoir l'extrême onction, un rituel pour avoir l'onction des malades. dites à vos enfants que vous voulez recevoir l'onction avant de mourir. Dites-leur, hein. Parce qu'ils ne le savent pas forcément. Dites-leur, avant, je veux recevoir ce sacrement. La mort, c'est la grande épreuve. C'est là où, justement, on est vraiment sur la croix. Il faut vivre ça avec Jésus. Il faut demander ces secours-là. Pareil pour les gens que vous connaissez. On parle d'évangélisation, et nous on apprend qu'on enterre un paroissien ou quelqu'un qui était chrétien il y a 10 ans, qui n'allait plus à la messe parce qu'il était en maison de retraite ou parce qu'il n'arrivait plus à se déplacer. Des paroissiens allaient le voir toutes les semaines et personne ne s'est dit tiens, il faudrait peut-être qu'il reçoive le sacrement des malades, il faudrait peut-être qu'il reçoive l'extrême onction. On en a besoin. Les sacrements, c'est pas du luxe, hein. C'est pas de la démarche privée. Les sacrements, ce sont les moyens que nous donne le Christ pour vivre toutes ces croix. Il faut avoir une sollicitude les uns les autres. Il faut se faire relais là-dessus. Il faut le proposer. Voilà, nous allons justement recevoir le Christ. Confions-lui chacun de ces malades que nous connaissons, confions-lui aussi chacune de nos souffrances, chacune de nos croix, en ayant cette confiance que le Christ la voit, cette croix, et qu'il vient nous rejoindre précisément à cet endroit-là. Proclamons notre foi à la